Johan Naldi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un invité hors cadre. Hors cadre, c'est aussi le titre d'un ouvrage que vous avez publié l'année dernière chez Herscher et qui racontait votre parcours dont on est très curieux. Alors, on va parler de ce livre consacré à un tableau qui, selon vous, permet de percer l'énigme de l'identité de Jack l'Éventreur, auteur de plusieurs meurtres horribles à Londres en 1888. Mais d'abord, vous. Vous, Johan Naldi, Michel Onfray parle de vous comme d'un authentique découvreur de trésors. Racontez-nous en quoi consiste votre métier.
Mon métier consiste essentiellement en la curiosité. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des œuvres disparues, des œuvres qui sont sorties des radars, qui existent, qui sont en nombre, et parfois même de très très grands peintres, et qui méritent d'être remises en lumière. Donc c'est l'essentiel de mon métier.
Alors votre spécialité, c'est la peinture du 19e siècle. Oui. Alors on connaît les marchands de tableaux, on connaît les antiquaires, on connaît les gens qui hantent les salles des ventes, mais vous faites un peu tout cela à la fois, et avec une notion de profilage. Il y a une notion de chasse dans votre métier, puisqu'avec le temps, vous vous êtes mis à chasser à la fois les tableaux et les énigmes qu'il y a avant ou après les tableaux.
Oui, c'est une véritable chasse au trésor, absolument. Et les œuvres disparues peuvent vraiment surgir n'importe où. Donc oui, comme tout le monde, je fréquente les salles des ventes, les brocantes. Je passe ma vie à fouiner sur les sites internet à la recherche de la pépite disparue, bien entendu.
Alors, il faut pas mal de nez pour faire cela.
Et de l'œil, surtout.
Et parmi vos découvertes, il y a une baigneuse que vous attribuez à Gustave Courbet, acquise 650 euros il y a quelques années. Il y a une main de Géricault, un dessin de Delacroix. Ça paraît complètement fou qu'on puisse encore trouver, en se fiant à son instinct, à sa culture artistique, qu'on puisse encore trouver des chefs-d'œuvre, ou en tout cas des tableaux, des dessins, des esquisses, signés par les plus grands maîtres. Tous ces gens-là sont au Louvre.
Bien entendu, il y a encore, comme je vous le disais, énormément de tableaux non identifiés qui restent à être redécouverts. Mais ça, c'est une... vous savez, dans mon métier, dans mon milieu, il y a une espèce de dogme un peu absurde qui consiste à dire qu'il n'y a effectivement plus aucune œuvre de grand maître à redécouvrir, ce qui est sur le plan scientifique une véritable erreur, une absurdité.
Comment vous avez mis la main sur cette baigneuse de Courbet? Parce que c'est un peu votre coup d'éclat, si j'ose dire.
C'est l'un de mes coups d'éclat, disons. Ouais. Je suis encore beaucoup plus fier d'avoir découvert le premier monochrome de l'histoire de l'art, qui a été exposé en 1882 dans l'exposition des arts incohérents et qui a disparu depuis. Donc ça, c'est vraiment pour moi mon fait d'armes, mon combat essentiel. Mais cette baigneuse, effectivement, c'était un tableau important de Courbet, immense, énorme, presque 1,50 m de long, qui est passé complètement au travers des mailles du filet, que j'ai acheté effectivement à Drouot pour quelques centaines d'euros.
Et 600 euros.
Oui. Personne n'y a cru, je pense.
Mais il était signé.
Il était signé, mais alors, un tableau signé n'est pas forcément authentique. J'ai presque envie de vous dire qu'un tableau signé est même suspect. Tous les faux étant signés par nature, pour être beaucoup plus alléchant. Donc le fait que ce tableau était signé n'était pas une garantie de son authenticité. Mais après plusieurs années de travail, de recoupement, d'analyse scientifique, ce tableau a fini par être exposé au musée Courbet et défendu comme un véritable Courbet par l'institution de référence du peintre. Donc oui, ça a été une belle victoire, mais un très long combat aussi, et qui n'est peut-être pas terminé.
Parce qu'il y a des gens qui contestent l'authenticité de ce tableau.
Oui, il y a toujours des polémiques. Dès l'instant où vous découvrez une œuvre très importante, inédite, qui n'a aucune provenance, vous avez toute une polémique généralement qui se met en place. Mais ce que je trouve dommage, c'est pas tant l'idée qu'il y ait un débat ou une polémique. Ce qui est dommage, c'est la pauvre qualité de la polémique. Moi, je suis pas contre la contre-argumentation sérieuse, documentée, etc. Mais on y a malheureusement rarement droit. Oui.
Johan Naldi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre méthode. Les gens qui vous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent chiner, qui adorent aller dans les salles des ventes. Le succès phénoménal de l'émission Les Enchères sur France 2, dans un autre genre. Oui. Enfin, les Français sont passionnés par leur passé et passionnés par là. Comment avez-vous mis au point votre méthode? Est-ce que vous pouvez nous révéler quelques secrets d'enquête?
Écoutez, je n'ai pas vraiment de secrets à révéler. Et puis, j'ai même envie de vous dire qu'il n'y a pas de méthode. C'est-à-dire qu'à chaque tableau, il y a une méthode de travail. Tous les peintres ne se ressemblent pas, tous les tableaux ne sont pas comparables. Donc c'est à chaque fois une nouvelle enquête, une nouvelle méthode. Alors il y a quelque chose de commun quand même d'un tableau à l'autre. C'est la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on utilise tout un tas de méthodes scientifiques,
des scanners,
imagerie scientifique, prélèvement de pigments, etc., qui permettent quand même, disons, de fermer un certain nombre de portes, d'écarter l'idée d'un faux, par exemple.
La baigneuse, vous l'avez revendue?
Non, elle n'est pas vendue, malheureusement.
Et elle a une cote aujourd'hui ou pas?
Oh, je pense que c'est un tableau qui a une certaine valeur, et c'est peut-être ce qui a un peu hystérisé, effectivement.
Comment vous avez mis la main sur un Géricault?
J'en ai même découvert plusieurs. Mais là, c'est pareil, c'est un artiste qui m'a toujours énormément passionné. C'est un artiste qui a énormément produit, qui était une véritable centrale nucléaire artistique. Donc, qui a produit plusieurs dessins par jour pendant de nombreuses années, plusieurs tableaux, même parfois en quelques jours. Donc, il y a énormément de tableaux, notamment non signés, parce que Géricault signait très rarement ses tableaux, qui ont complètement disparu. Donc oui, Géricault est un artiste en grande partie à redécouvrir.
Joan Naldi, marchand d'art spécialisé dans la peinture du 19e siècle et chasseur de chefs-d'œuvre, on va dire ça comme ça, est l'invité de la matinale de Radio Classique. Est-ce que c'est un métier où on se fait des ennemis? Parce que quand on achète une œuvre pas chère et qu'ensuite on découvre que c'est un chef-d'œuvre qui peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions, le vendeur doit se dire « mais je me suis fait avoir alors que c'est lui qui a vendu ».
Oui, ça peut arriver, mais on se fait surtout des ennemis dans son propre métier.
Oui.
c'est ça le problème. Vous savez, dès l'instant où vous parlez d'argent, la question des beaux-arts devient tout à fait secondaire et c'est très malheureux.
J'en viens à ce dernier livre paru donc tout récemment. Ça s'appelle « L'unique portrait » de Jack l'Éventreur.
Oui.
C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Le point de départ de la conviction que vous vous êtes faite, c'est une enquête de la romancière Patricia Cornwell. En 2002, elle sort un ouvrage où elle explique, trace ADN à l'appui, que Jack l'Éventreur n'est autre que le peintre anglais Walter Sickert, qui vivait à la même époque que Jack l'Éventreur. Et c'est là que vous intervenez, 21 ans plus tard, avec ce livre. Vous racontez comment vous estimez être en possession de l'unique portrait de Jack l'Éventreur.
Tout à fait.
Alors racontez-nous.
C'est
incroyable parce que ça fait 130 ans que la presse, que la science, que la police de Scotland Yard, que les historiens essaient d'identifier Jack l'Éventreur et n'ont jamais réussi.
Absolument. C'est vrai que Jack l'Éventreur, c'est un continent. Phénoménal. Il y a une littérature depuis 130 ans sur Jack l'Éventreur qui est sans équivalent. C'est absolument hallucinant.
Alors d'où il vient ce tableau?
Mais la grande différence, pardon, je vais vous répondre, mais la très grande nouveauté de ce dossier, c'est que là, il ne s'agit plus seulement de dire ou de lire, il s'agit de voir, il s'agit de regarder une image. Et ça, c'est la première fois que ça arrive dans cette enquête, dans ce célèbre cold case.
Alors, le tableau, d'où vient-il? Comment l'avez-vous repéré? Combien vous a-t-il coûté? Et comment avez-vous vu une vérité derrière la peinture?
Alors c'est un tableau que j'ai acheté comme souvent d'ailleurs dans une petite vente aux enchères de province en France pour quelques milliers d'euros à Avignon dans le sud de la France. Et c'est vrai que j'étais sur mon ordinateur, c'était pendant le confinement, donc je n'ai pu voir le tableau que sur photographie, mauvaise photographie sur mon écran d'ordinateur. Et c'est vrai que j'ai immédiatement non pas repéré qu'il s'agissait d'un portrait de Jack l'Éventreur, je n'avais à ce moment-là aucune idée de l'identité du modèle.
C'était pas marqué sur son chapeau.
C'était pas du tout marqué sur son front. Mais j'ai immédiatement, si vous voulez, repérer d'une part la très grande qualité picturale de ce tableau et sa très grande singularité. On voit immédiatement que ce personnage n'est pas un dandy, un élégant parisien qui flâne sur les boulevards, etc. Mais qu'il a quelque chose d'extrêmement louche, notamment dans son regard, etc. Donc ce tableau, j'ai tout de suite senti qu'il racontait une histoire.
Ça aurait pu être un personnage à la Dickens. Est-ce que vous savez, quand vous identifiez le tableau, qu'il s'agit d'une représentation du fameux Walter Sickert, le peintre dont on a soupçonné qu'il était l'auteur de 5 meurtres à Londres en 1888?
Non, pas du tout. Au moment où j'achète le tableau, donc comme un tableau non identifié, anonyme, je n'ai aucune idée de l'identité ni du peintre, ni du modèle représenté.
Ah oui, donc c'est encore plus le pif, là.
Ah, c'est complètement le pif. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un métier dans lequel il faut se risquer, vous savez. Pour faire des découvertes, il faut avoir une certaine audace et un certain courage et parfois miser, être prêt, en tout cas, du moins, à perdre son argent.
Donc, cette silhouette sur ce tableau, qui a quel format? C'est du 40 cm sur 60?
C'est un peu plus grand, je crois qu'il fait autour de 80 par 60.
Donc cette silhouette qui pourrait être sortie d'un roman de Dickens vous tape dans l'œil, vous allez à Avignon, vous faites l'acquisition pour 6 000 euros, je crois.
Environ, oui.
Voilà. Et vous vous dites, qui représente ce tableau? Quelle est l'histoire de ce tableau?
Oui, c'est-à-dire que au départ, je m'interrogeais sur l'identité du personnage. Est-ce qu'il s'agissait d'une représentation de Vidocq? Est-ce qu'il s'agissait d'un anarchiste, un poseur de bande sous la Troisième République? Est-ce que c'était une illustration pour Les Misérables ou quelque chose comme ça? À chaque fois, les portes se refermaient.
J'allais vous parler de Jean Valjean.
Par exemple.
Ou de Javert.
Donc, si vous voulez, j'ai refermé toutes ces portes et j'ai commencé à me concentrer sur cette roue de couleur rouge sang qui se trouve à droite du tableau et qui a été le premier fil que j'ai tiré et qui m'a, après 2 ans d'enquête, conduit finalement à affirmer, je crois pouvoir l'affirmer, qu'il s'agit d'un portrait, de la seule et unique image de Jack l'Éventreur.
Et vous vous appuyez sur les travaux de Patricia Cornwell.
Tout à fait.
Qui affirme que ça y est, l'enquête est close, elle a clairement identifié Jack l'Éventreur, elle l'affirme alors qu'il y a des doutes qui subsistent, je le disais, depuis 136 ans. Et donc, elle a, grâce à l'ADN...
elle a fait un travail remarquable.
Identifié et attribué ces 5 meurtres de 1888 au fameux Walter Sickert, qui est un peintre anglais, pour le coup, dont vous pouvez nous parler, parce qu'il est intéressant aussi, lui.
Il est extrêmement intéressant, mais pour rebondir sur Patricia Cornwell, ce qui est intéressant, c'est que ce tableau, d'une certaine manière, est la confirmation par l'image de la théorie de Patricia Cornwell. Donc, c'est une espèce de complément d'enquête. Concernant Walter Sickert, c'est un peintre britannique absolument inclassable, qui pourrait être rattaché, disons, au mouvement post-impressionniste, mais qui a toujours été intéressé par les sujets marginaux, par le milieu de la prostitution, par les représentations d'un certain nombre de crimes. C'est le seul peintre qui a exécuté la chambre de Jack l'Éventreur. Hein. Il a formalisé le seul tableau directement relié à l'affaire.
Donc, mais beaucoup disent que tout le monde s'intéressait à Jack l'Éventreur dans ces années-là.
C'est absolument faux.
Et qu'il a fait couler beaucoup d'encre, etc. Alors, c'est pas exceptionnel qu'il entre dans l'œuvre d'un artiste.
Détrompez-vous. C'est exceptionnel parce que les représentations de Jack l'Éventreur, on les trouve dans les gravures d'illustration des journaux, jamais dans la peinture, jamais. Aucun peintre, et c'est ce qui m'a beaucoup surpris dans mon enquête, aucun peintre ne s'est intéressé à cette histoire et n'a même, ne serait-ce que d'imagination, décidé de peindre un portrait de Jack l'Éventreur. Aucun. C'est le seul tableau.
Je fais un peu de rétropédalage parce qu'une fois que vous avez acquis le tableau dans cette salle des ventes pour 6000 euros à Avignon, vous vous êtes dit, mais de qui est-il signé? Vous avez découvert qu'il était signé d'un peintre normand, qui avait été très copain avec le fameux Walter Sickert, et donc ce peintre normand aurait pu peindre ce portrait de Walter Sickert, et à ce moment-là, vous retricotez, si j'ose dire, l'histoire de Walter Sickert. J'en viens au tableau de Walter Sickert, qui avait l'habitude de peindre des nus, assez inquiétants. Quand on regarde les nus qu'il peint, on est entre l'origine du monde et des femmes qui ont l'air nues sur des lits et qui ont l'air agonisantes.
C'est toujours très ambigu, hein. La production de nus de Walter Sickert a fait couler beaucoup d'encre. On hésite toujours en regardant un nu de Sickert entre une femme endormie et un cadavre. Hein, c'est toujours très, très particulier, mais il a quand même réalisé une série de tableaux sur le meurtre de Camden Town à Londres en 1907, qui sont pour cette série sans aucune ambiguïté. Quant à Jacques-Émile Blanche, donc, qui est selon moi, c'est mon hypothèse, en tout cas ma théorie, l'auteur du tableau en question, c'est aussi un peintre extrêmement intéressant, qui a une approche psychologique de ses modèles tout à fait particulière. Son atelier était une sorte finalement à la fois de confessionnal et de cabinet de radiologie. C'est un peintre qui perce les âmes, qui est lui-même fils du fameux docteur Blanche, qui était un aliéniste et un médecin légiste très renommé à l'époque. Et donc Blanche a vécu dans ce creuset, dans cette marmite d'aliénés, qui lui a donné cette sorte d'aptitude très singulière à percer les âmes et donc à percer le secret de Walter Sickert, selon moi.
Joanne Naldi, qui est l'invité de la matinale, une dernière question. Je devine en vous écoutant que vous aimez autant les tableaux que le chemin qui mène à ces tableaux et parfois l'histoire que renferment ces tableaux. Quel est le secret de peinture que vous rêvez d'élucider ou quel est le tableau perdu que vous rêvez de retrouver?
Oh bon, mon rêve, mais je le partage avec plusieurs autres, hein, c'est de retrouver les 5 portraits de monomanes de Géricault qui ont disparu depuis 2 siècles. Mais ça, c'est un vieux fantasme. Mais j'ai quand même quelque espoir un jour de les retrouver, allez savoir.
Et votre méthode, je reviens dessus, puisqu'il nous reste 40 secondes, c'est quand même le mélange d'Internet et de la flânerie.
Ah oui, la flânerie et le rêve surtout. C'est très important. Alors après, il faut travailler, il faut avoir une méthodologie très, très sérieuse, mais le rêve et la curiosité, c'est le moteur essentiel dans la recherche.
Et tout le monde doit vous tomber dessus depuis que vous avez identifié Jack l'Éventreur. Vous devez avoir plein de détracteurs qui disent « Mais non, pas du tout, c'est plein de zones d'ombre, son enquête aussi n'est pas fiable, etc. »
Ça commence à frémir.
Joanne Naldi, L'unique portrait de Jack l'Éventreur. Je vous recommande aussi un autre livre où vous racontez votre parcours de découvreur de tableaux et de trésors. Ça s'appelle Hors cadre. Vous êtes hors cadre, Joanne Naldi. Je recommande ces deux livres. L'un est paru chez l'Observatoire. C'est le livre sur Jack l'Éventreur et l'autre chez Herscher. Ça s'appelle Hors cadre. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres, Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani, Radio Classique 8h20.